7, versets 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alors, si vous voulez, on va prier pour que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, ta parole est d'une richesse insondable. Et Seigneur, nous avons besoin que ton esprit nous ouvre l'intelligence à la compréhension de ta parole et aussi à appliquer dans nos vies les principes que tu veux nous enseigner pour nous transformer, pour nous faire ressembler davantage à la personne de Christ, et tout cela pour ta plus grande gloire. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde et ta bénédiction. C'est en Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qu'on te prie. Amen. Alors, juste pour les personnes qui sont ici pour la première fois, pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qu'on fait, on est en train d'étudier l'Épître aux Hébreux, qui est une épître de Paul dans le Nouveau Testament. Bien sûr, si vous êtes ici et vous n'avez pas tout entendu, ce qui a été donné dans les leçons précédentes, alors nous, on fait une étude systématique du livre d'Hébreux, à partir du premier chapitre, aller jusqu'à la fin. Là, on est rendu au chapitre 7. Bien sûr que je peux comprendre jusqu'à un certain point qu'il y a des bouts que vous ne compreniez pas parce que c'est bien difficile d'arriver au milieu d'un enseignement et de vouloir tout saisir. Mais en tout cas, de toute façon, demeurez quand même persévérant parce que recevez ce que vous pouvez recevoir. Alors, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek ». On va regarder trois points à l'intérieur de ce passage-là. On va regarder le premier point, ça va être la singularité de Melchisédek. Comme de quoi que ce personnage-là est vraiment singulier, dans le sens qu'il est particulier et que Dieu avait parlé de lui dans l'Ancien Testament, de manière à enseigner des choses sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ qui était à venir. Dans l'Ancien Testament, on parlait, Melchisédek a été placé là pour venir enseigner des choses sur Jésus-Christ qui viendrait plus tard comme Messie. Alors, on va regarder pourquoi l'Esprit avait pris le personnage de Melchisédek dans l'Ancien Testament et de nous montrer de quelle façon ce personnage-là venait révéler quelque chose du Messie à venir qui était Jésus-Christ. Alors, la singularité de Melchisédek, c'est dans le verset 1. Dans le verset 2, on va regarder Melchisédek, son autorité. C'était un roi, comme on a vu dans le texte. Son nom signifie « roi de justice » et « roi de paix ». Et on va voir quel parallèle on peut faire aussi avec la personne de Jésus-Christ. Et dans le verset 3, on va regarder la continuité de Melchisédek. Alors, dans le passage, on nous dit que c'était un roi. À l'époque, les rois d'Orient gardaient l'histoire de leur vie. Alors, normalement, les rois d'Orient, on a encore des informations sur eux, mais Dieu a permis que ce personnage-là, on ne sache rien de lui, ni son commencement, où il est né, et toutes les histoires de sa généalogie, de qui il descendait. Parce que les rois, à l'époque, il fallait qu'ils soient capables de dire, « Moi, je suis le fils d'un tel, puis mon grand-père, c'était un tel, la lignée royale. » Dans ce personnage-là, qui était un roi, Dieu ne donne ni son commencement, ni sa généalogie, et ne parle pas non plus de sa fin, c'est-à-dire comment il est mort et tout ça. Et il y avait une intention bien particulière de la part de Dieu de faire cela parce que c'était pour révéler quelque chose sur Jésus-Christ, le Messie. Alors, on va voir la continuité. Melchisédek était Dieu en ne donnant pas sa, ni son origine, ni sa fin, Dieu venait parler que Jésus-Christ, lui aussi, on ne connaissait ni son origine, mais c'est-à-dire on la connaît jusqu'à un certain point, on sait qu'il était depuis toute éternité, et que sa sacrificature, on reviendra un petit peu sur ces termes-là tantôt, sa sacrificature demeurait à perpétuité dans le verset 3. Alors ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue sa démonstration magistrale aux chrétiens juifs de l'époque, parce qu'à l'époque, les Juifs appartenaient à la religion judaïque et qui avait tout un système. Et quand Jésus est venu, beaucoup de Juifs n'ont pas reconnu que Jésus-Christ était le Messie. Et alors, l'ensemble des nouveaux Juifs qui venaient au Seigneur avaient une énorme pression sociale venant des autres Juifs, parce que il disait, vous abandonnez la religion de vos pères, et il leur mettait une énorme pression sociale, dans le sens que un chrétien à l'époque qui abandonnait le judaïsme et qui devenait chrétien, ils étaient rejetés de la société, les Juifs. Ils ne pouvaient avoir ni commerce, d'échanges commerciaux, et ni échange. Alors, les Juifs les rejetaient comme s'ils avaient été des parias. Et on sait que les nouveaux chrétiens juifs avaient cette tentation-là de vouloir retourner dans la religion de leur père. Et c'était une erreur monumentale. Alors, le but de l'Épître aux Hébreux était de rappeler aux Juifs que Jésus était venu et que retourner dans la religion judaïque, c'était une grande folie. Et depuis le début, tout ce qu'on a vu, c'est que Jésus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, a voulu démontrer aux nouveaux chrétiens juifs que Jésus était Dieu lui-même incarné dans une chair d'homme, et que Jésus était l'homme-Dieu, parfaitement homme, parfaitement Dieu, homme-Dieu avec un trait d'union, avec un grand D majuscule. Il était l'homme-Dieu. Et alors, dans le premier chapitre, il a voulu leur démontrer que Jésus était Dieu incarné dans une chair d'homme. Et après, il a voulu leur démontrer qu'il était supérieur aux anges, qu'il était supérieur à Moïse, qu'il était supérieur à tous les grands personnages de l'histoire des Juifs. Et il continue à faire sa démonstration. Alors, on ne reprendra pas tout ce qu'on a vu depuis le début, mais quand même, ça vous donne une idée un peu pour vous situer, qu'est-ce que l'auteur cherche à faire. Il y a juste une idée qui unit tout le livre de Hébreux, c'est que l'auteur cherche à démontrer l'infini, et là je mesure mes mots, infinie supériorité de la personne de Jésus-Christ si tu la compares avec l'ancien système du judaïsme. Alors, l'infinie supériorité, c'est que les Juifs n'étaient pas convaincus de ça, et l'auteur va prendre toute l'épître. Dans le fond, l'épître aux Hébreux, c'est une lettre. Il leur avait écrit une lettre pour leur démontrer ces choses-là, que Jésus-Christ est infiniment supérieur et que c'était une erreur énorme que de vouloir retourner dans le judaïsme. Et c'était même leur destinée éternelle qui en dépendait. Alors, pourquoi le personnage de Melchisédek est inscrit ici dans l'épître? On se souvient que pour être sacrificateur, ceux qui sont ici depuis longtemps, qui ont étudié toute la série qu'on a faite sur le tabernacle, le sacrificateur, c'était le personnage qui était le médiateur entre Dieu et les hommes et qui avait la tâche de sacrifier des animaux, leur trancher la gorge. Et l'image de ça, c'était pour démontrer que quand Jésus viendrait, il prendrait sur lui nos péchés. Alors, on appelle Jésus, souvent dans les Écritures, l'agneau de Dieu. Pourquoi on l'appelle l'agneau? Parce que, anciennement, on prenait un animal et on lui faisait subir le châtiment. Alors, les Juifs mettaient leurs mains sur la tête de l'animal et ils reconnaissaient que leur culpabilité de leur péché était transférée sur la tête de l'animal. C'était une façon, pour parler de la venue future de Christ, Parce que nous, ce qu'on fait, nous aussi, on met nos mains, on transfère notre culpabilité sur la personne de Jésus-Christ. Et le salut, c'est tout simplement de reconnaître que nos péchés nous valaient d'être condamnés pour l'éternité dans l'enfer et que Jésus a accepté pour ses élus de prendre sur lui la punition qui nous était due. Ça, c'est un aspect de la sacrificature. L'autre aspect, c'est que Dieu avait exigé de chacun de nous qu'on ait accompli le décalogue ou la loi ou les 10 commandements à la perfection. Imaginez-vous si vous allez dans l'Exode 20 ou dans Deutéronome 5 où on décrit les 10 commandements de Dieu. Dieu voulait que chacun de nous, pour pouvoir vivre en sa présence, on ait accompli les 10 commandements à la perfection. Autrement dit, on n'a jamais menti, on n'a jamais eu aucun manquement envers notre prochain, on n'a jamais volé, on n'a jamais couché avec la femme du voisin, on n'a jamais eu une mauvaise pensée. Et si vous prenez l'ensemble des 10 commandements, c'était énorme ce que le Seigneur nous demandait. Le salut, c'est tout simplement reconnaître que notre culpabilité, nos péchés ont été placés sur la personne de Christ, que le Père a jugé nos péchés, lui a fait subir l'équivalent de ce que nous aurions dû subir à notre place, et aussi qu'il a accompli à notre place encore les exigences que Dieu avait envers chacun d'entre nous. Et vous, le salut, c'est quelque chose de glorieux, merveilleux, parce que notre punition, c'est quelqu'un qui paye pour nous, puis nous, on en est exemptés, et les exigences que Dieu avait envers chacun de nous ont été accomplies par notre représentant, qui est la personne de Jésus-Christ. Alors, pourquoi la personne de Melchisédek est introduite dans cette partie-là du livre? On se souvient que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le tabernacle, dans la partie sainte à tous les jours. Mais s'il voulait traverser le voile qui séparait le saint du saint des saints, il y avait un grand rideau, il ne pouvait le faire qu'une fois par année. Et c'était pour amener du sang qui représentait le sang futur de Christ, et c'était dans le but d'obtenir le pardon, et il l'obtenait, mais pour lui et pour ceux qu'il représentait, il devait le faire juste une fois par année. Maintenant, le problème avec les Juifs, c'est qu'ils disaient « Jésus vient de la tribu de Juda ». On se souvient que le peuple d'Israël avait 12 tribus. Et pour être un sacrificateur, tu devais être de la tribu de Lévi. Et tu te devais d'être un descendant direct de la personne d'Aaron, qui était le premier sacrificateur. Et pour pouvoir être sacrificateur, au moment quand Jésus est venu, il existait encore le système sacrificiel, le temple. Et pour être le souverain sacrificateur, il fallait que tu sois capable de démontrer que moi, il y a Aaron, le fils d'Aaron, c'est un tel, le fils du fils, et il fallait que tu puisses établir ta lignée jusqu'à Aaron pour pouvoir être déclaré souverain sacrificateur. Le problème avec les Juifs, c'est qu'ils ont dit, Jésus, on sait qu'il est venu, mais lui, il vient de la tribu de Juda. Alors, il ne pouvait pas être souverain sacrificateur. Qu'est-ce que l'Épître cherche à démontrer ici, c'est que Jésus est maintenant le nouveau souverain sacrificateur. Les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient des hommes. Ils exerçaient leur ministère entre 30 et 50 ans. Après 50 ans, ils arrêtaient et éventuellement, ils mouraient comme tous les hommes. La différence avec Jésus, c'est qu'il est le souverain sacrificateur, mais étant l'homme-Dieu, après qu'il a eu accompli son travail sur la croix et qu'il a eu fait à notre place ce que Dieu exigeait pour nous, soit l'obéissance parfaite au commandement, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et son ministère n'est pas quelque chose d'annuel, c'est quelque chose qui demeure en permanence. Et depuis l'époque des Juifs, ça fait déjà 2000 ans de ça, il est encore à la même place et c'est encore lui. Alors son ministère est perpétuel. Ce que l'auteur cherchait à leur démontrer, c'est qu'il faut que tu abandonnes l'ancien système de sacrificature qui durait un an pour adopter celui de Christ qui est lui au ciel et que sa sacrificature est maintenant permanente. C'était une folie que de vouloir retourner là-dedans. Pourquoi le personnage de Melchisédek est introduit à ce stade-ci du chapitre de l'Épître aux Hébreux? On vous a déjà parlé les semaines dernières de l'idée du type et de l'antitype. On va reviser encore une fois parce que ça prend un certain temps avant de se familiariser avec ces notions-là et de comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, on va reviser la notion de type et d'antitype parce que le personnage de Melchisédek est un type de Jésus-Christ. Mais évidemment, comme je vous dirai, si c'est un type, si vous ne savez pas ce que ça veut dire type, vous allez dire où est-ce qu'il s'en va avec ça. Alors, voici, on reprend la définition, je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois, vous l'allez entendre trois fois, la semaine prochaine je vais vous la redire, ça en fait quatre fois. Il va venir un temps que vous allez comprendre c'est quoi un type. Et c'est quoi un antitype? Alors, une définition de type, c'est une personne, une chose ou un événement de l'Ancien Testament ayant une réalité historique. Il faut que ça ait existé dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, ici, on prend Melchisédek, on dit qu'il y a trois choses possibles. Ou c'est une personne, ou c'est un événement, ou c'est une chose. Lui, c'est une personne. Donc, ça marche. Il faut qu'il y ait les six éléments. Il faut qu'il y ait six éléments pour qu'on puisse le considérer comme un type. Donc, une personne, un événement ou une chose de l'Ancien Testament, Melchisédek, c'était dans l'Ancien Testament, dans Genèse. Ayant une réalité historique, Melchisédek a existé, il était un roi. Qui comporte une intention divine. Pourquoi le texte, on l'expose aujourd'hui? Parce que Dieu, en présentant ce personnage-là de Melchisédek, avait une intention. Pourquoi il n'a pas parlé de son origine? Pourquoi il n'a pas parlé de sa fin? C'est parce qu'il voulait faire un rapprochement avec la personne de Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, celle de préfigurer. Ça préfigurait la venue future de Christ. Et aussi, qui comporte un élément prophétique. Donc, quand Jésus parle d'Abraham, sa rencontre avec Melchisédek, il y avait une prophétie là-dedans. Une prophétie, c'est quelque chose qui parle de l'avenir, qui parlait de la venue future de Jésus-Christ comme étant le Messie des Juifs. Et, cinquième chose, il faut que l'accomplissement de ce qui est en train de préfigurer, ça soit arrivé dans le Nouveau Testament. À l'époque des Juifs, Jésus, quand on lit l'Épître aux Hébreux, Jésus était déjà mort, était déjà ressuscité, était déjà monté au ciel, faisait déjà au-dessus de 30 ans. Alors, l'accomplissement de tout ce qui a été dit sur ce personnage-là avait été accompli dans le Nouveau Testament. Et, autre chose, ça manifeste la supériorité de l'antitype. Le type, c'est ce qui est dans l'Ancien Testament, la personne, la chose ou l'événement. Il faut que ça ait une réalité historique. Il faut que ça comporte une intention divine. Et il faut que ça contienne un élément prophétique. Et il faut que ça s'accomplisse dans le Nouveau Testament. Et que ça manifeste la supériorité de l'antitype. L'antitype, c'est toujours Jésus-Christ. Peu importe ce que vous allez prendre comme type dans l'Ancien Testament, que ce soit Aaron, que ce soit Melchisédek, que ce soit le tabernacle, que ce soit des fêtes juives ou toutes ces choses-là, ça s'accomplit toujours dans le Nouveau Testament, dans la personne de Jésus-Christ. Et il faut que ça soit désigné comme tel dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Alors les six éléments, s'ils ne sont pas là, ce n'est pas un type. Alors on révise. Il faut que ce soit une personne, un événement ou une chose qui ont une réalité historique dans l'Ancien Testament, qui comporte une intention divine, celle de préfigurer la venue future de Jésus-Christ, et qui comporte un élément prophétique, donc qui va venir plus tard, et dont l'accomplissement dans le Nouveau Testament manifeste la supériorité de l'antitype. L'antitype, c'est toujours Jésus-Christ. On ne se mêle pas. C'est que Dieu prenait des choses, des personnages ou des événements dans l'Ancien Testament, et toutes ces choses-là venaient parler de la personne de Christ ou de l'œuvre de Christ, un aspect ou un autre. Mais l'antitype, c'est toujours Jésus-Christ. Pourquoi il introduit le personnage? C'est justement parce qu'il veut nous faire réfléchir sur la personne de Jésus-Christ. Et la dernière chose qu'on a dit, le sixième point, il faut que ça soit désigné comme tel dans le Nouveau Testament. Si, à quelque part, il n'y a pas un verset dans le Nouveau Testament qui dit que ce personnage-là est un type, ça n'est pas un type. Alors, celui d'aujourd'hui, on va prendre des exemples pour comprendre. Alors, on va prendre des exemples de personnes. Je ne les nommerai pas tous, ceux qui sont dans l'Ancien Testament, qui avaient un but de parler de Jésus-Christ, mais je vais quand même en parler quelques-uns. Il y avait Aaron, qui était le premier sacrificateur, et qu'il fallait que tu puisses démontrer ta descendance de ce personnage-là pour pouvoir devenir un sacrificateur. Et les souverains sacrificateurs ont existé jusqu'à ce que Christ vienne, et en s'accomplissant, il fallait que les nouveaux convertis qui venaient du judaïsme abandonnent l'ancien système. Pourquoi aujourd'hui les Juifs continuent l'ancien système? C'est parce que quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu et ils veulent continuer leur religion de l'ancien. Ils ne reconnaissent pas la personne de Christ. Du moins, pas tous. Juste ce qu'on appelle les chrétiens nouveaux, les Juifs. Alors, on avait Aaron, Melchisédek. Ça, c'est deux exemples de personnes. On prend maintenant des exemples d'événements. Quand vous lisez Exode 12, c'était la Pâque juive. Il fallait que les Juifs, à une certaine période de l'année, entre tel jour et tel jour, prennent un animal qui était un agneau, et il fallait qu'ils le tuent, qu'ils le mangent dans la nuit avec des herbes amères. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça dans l'Ancien Testament. Mais ça représente, quand Jésus est venu, le soir, on pense que c'est le jeudi saint, là, qui a institué le repas du Seigneur qu'on prend à peu près une fois par mois ici. Quelle fête il fêtait le soir quand il a institué? Il fêtait la Pâque. La Pâque qui était une référence à Exode 12 et qui parlait de l'agneau. L'agneau, c'était lui-même. Et à quelque part, il faut faire les liens. Alors, la Pâque juive, c'était une chose ou un événement. Il y avait la fête de la Pentecôte, il y avait la fête des trompettes, la fête des tabernacles, le sabbat. Ça, c'est tous des exemples de choses, d'événements. Maintenant, les choses. Il y avait le tabernacle. Ceux qui ont ici depuis plusieurs semaines, on a fait une série d'études sur le tabernacle qui a duré une vingtaine de semaines. Tout dans le tabernacle parle de la personne de Jésus-Christ. Si, je me souviens la première fois que j'ai lu la Bible, que je suis arrivé à Exode, chapitre 25, aller jusqu'à chapitre 40. J'ai absolument rien compris. Parce que c'était difficile, parce que je ne cherchais pas la personne de Jésus-Christ à l'intérieur de la description. Si vous voulez avoir une clé d'interprétation de l'Ancien Testament, cherchez Christ. Quand on cherche Christ dans l'Ancien Testament, on finit par comprendre quelque chose. Et il y a une multitude d'outils aujourd'hui pour nous aider à comprendre, multitude de livres qui ont été écrits sur le tabernacle. Alors, si vous arrivez, vous lisez Exode 25, allez jusqu'à Exode 40, puis vous n'allez pas chercher aucune information ailleurs que dans votre... Si vous ne cherchez pas Christ, vous allez lire ça, vous allez trouver ça ennuyeux à mort, puis vous ne comprendrez rien à ce que vous allez lire. Mais si vous cherchez Christ, et si vous allez chercher des livres pour vous aider à comprendre, vous allez voir que le tabernacle devient une des choses à peu près les plus intéressantes qu'on ne peut pas étudier. On l'a étudié ici pendant 20 semaines, et je suis certain que je pourrais réétudier encore pendant un autre 20 semaines, et même j'irais plus loin que ça, je dirais que je pourrais l'étudier pendant les 20 prochaines années, et je n'aurais pas fini d'épuiser le sujet tellement c'est riche. Bon. Le tabernacle, le rideau séparant le Saint des Saints, l'offrande de l'Holocauste, l'offrande de fleurs de farine, toutes des choses. Les Juifs qui étaient nouvellement convertis au christianisme rencontraient d'énormes difficultés pour intégrer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ pour remplacer le judaïsme. Premièrement, ils se devaient d'échanger ce qui était visible. Le judaïsme et le système sacrificiel, c'était visible, ça. Ils allaient quelque part, ils emmenaient leur animal. Tout était basé sur les sens, l'observation. contre l'invisible. Là, on leur parle de la personne de Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel après 40 jours, qu'on dit qu'il est assis à la droite de Dieu, et on dit qu'il continue d'intercéder et à faire un travail que le souverain sacrificateur faisait dans l'Ancien Testament. Mais là, lui, maintenant qu'il est là, il le fait de façon permanente. Alors, de dire aux Juifs, ça faisait au-dessus de 1500 ans qu'il y avait un système, et de là, de leur dire, votre système, ça faisait appel à l'œil, vous pouviez voir. Maintenant, je vous parle de Jésus qui est rendu au ciel, que vous ne voyez plus. Et je vous demande de changer le visible pour de l'invisible. C'était pas si facile que ça à faire. La deuxième chose, ils se devaient d'abandonner le système dans lequel eux et leur père avaient pratiqué durant plus de 1500 ans. Ça faisait 1500 ans que les Juifs pratiquaient le tabernacle, le sacrifice des animaux et tout ça. Mais dans le fond, le but de tout ça dans l'Ancien Testament, c'était de préparer la venue, de préfigurer la venue future de Jésus-Christ. Et à partir du moment que tu ne reconnais pas qu'il est venu Jésus, l'antitype, et qu'il a accompli parfaitement tout ce dont on parlait, qu'il l'accomplit parfaitement, bien, quelque part, tu es tenté de retourner dans l'ancien système. Donc, 1500 ans, abandonner un système, ça fait 1500 ans que tu es dedans, c'était pas non plus facile. Troisième chose, il se devait de rejeter vigoureusement les accusations de tous les autres Juifs encore dans le judaïsme et qui affirmaient que le christianisme était satanique. Imaginez-vous, c'était pas la petite chose, là. Ça fait 1500 ans que tu es dans un système, tu vois des choses, là, ils te demandent de changer de visible pour l'invisible. Ils te demandent d'abandonner un système dans lequel tes pères et toi êtes dedans depuis 1500 ans. Et la plupart des Juifs non convertis disaient, si vous êtes des chrétiens puis vous en allez dans le christianisme, vous êtes des sataniques. Faut que vous gardiez l'ancien système de chercher à gagner votre salut par vos efforts. Et, quatrièmement, il se devait d'accepter de subir le rejet social et économique des autres Juifs, de souffrir et d'être persécuté pour le nom de Christ. Alors, je ne sais pas si vous vous mettez dans leur peau, mais c'est comme si quelqu'un aujourd'hui vous dirait, à cause que vous êtes chrétien, vous ne pouvez plus avoir de relations économiques avec le reste de la population de Rouen, et toute la population qui n'est pas chrétienne ne veut plus vous parler sous aucune considération. C'était ça qui vivait les Juifs de l'époque. Alors, abandonner tout ça et de dire « je suis prêt à souffrir pour le nom de Christ, même si ça m'amène des jugements, du rejet, du mépris, de la haine et toutes sortes de fausses accusations, je continue de croire que croire en Christ, je crois en l'antitype parce que tout ce qui avait été prophétisé de lui est accompli. » Alors, c'était pour eux le moment de bien considérer. Quand vous regardez Hébreux 7, 4, aujourd'hui, on va étudier les trois premiers versets. Mais dans le verset 4, il commence par un mot. Considérer. Il est en train de leur dire, considérer, ça veut dire porter une attention très particulière. Soyez très attentifs à ce que je suis en train de vous dire. Alors, il était rendu, après tout le développement des idées que le Seigneur leur a, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur avait développé au cours des six premiers chapitres, il était rendu au point de dire, attention, là, arrêtez-vous et réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire, et aussi réfléchissez aux gestes que vous êtes tentés de faire de retourner dans le judaïsme. Alors, c'était pour eux le moment de bien considérer les enjeux. Ils se devaient de porter une grande attention aux choses dites, de réfléchir extrêmement sérieusement, de tout bien peser et de prendre de graves décisions ayant des implications éternelles. Leur retour dans le judaïsme, ça aurait pu avoir des répercussions même sur leur vie éternelle. Alors, c'était pour eux, ce n'était pas une décision facile à prendre. Alors, les arguments pour les convaincre, ça devait d'être convaincants, scripturaires et irréfutables. Convaincant, ça veut dire que tu n'aurais pas pu dire à un juif, Jésus est souverain sacrificateur, et Il vient de la tribu de Juda, mais toutes les Écritures nous disent qu'il fallait qu'il vienne de la tribu de Lévi. Alors, pour établir que Jésus était souverain sacrificateur, il fallait que tu ailles chercher des passages dans l'Ancien Testament qui démontraient que l'autorité de devenir souverain sacrificateur, c'était Dieu le Père lui-même qui l'avait donné à Jésus. On se souvient, on faisait référence au psaume 110, où le Père avait dit à Jésus, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, qu'on est en train de voir aujourd'hui. » Alors, le premier point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la singularité de Melchisédek. En quoi ce personnage-là était unique, et qu'est-ce que le personnage venait enseigner sur la personne de Christ? Alors, on commence à Hébreux 6, 20, qui était le dernier verset de la dernière leçon qu'on a vue, et le premier verset du chapitre 7. Dans Hébreux 6, 20, ça disait cette espérance. De qui on parlait quand on parlait de l'espérance? On parlait de la personne de Christ. Il dit, nous, les chrétiens, juifs, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre déjà au-delà du voile. Quand vous lisez le Nouveau Testament, quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé pour démontrer que le voile qui séparait le saint du saint des saints s'est déchiré? Quand Jésus est mort, les Écritures nous disent que le voile du temple, alors il faisait référence au tabernacle, il faisait référence au temple en même temps, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas, et les Écritures nous disent que ça l'avait pour but de révéler que le lieu saint était maintenant, le lieu très saint était maintenant ouvert, qui n'était pas ouvert avant, à cause de la personne de Jésus-Christ. Ça dit dans le verset 20, « Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Alors, s'il y a des personnes, des Juifs, qui disaient, « Ça ne marche pas ton affaire. Tu es en train de nous dire que Jésus est souverain sacrificateur, mais il n'est pas de la tribu de Lévi. » Là, il lui avait répondu, « Retourne dans l'Ancien Testament, va dans le psaume 110, et tu vas voir que quelque part, le Père, Dieu le Père, dit à son Fils, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Vous voyez, il faisait déjà référence à Melchisédek dans l'Ancien Testament, dans le livre des psaumes et dans le livre de Genèse. Dans le verset 1 du chapitre 7, ça dit, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. » Là, il faut retourner dans le livre de la Genèse. Quand on retourne dans le livre de la Genèse, on se souvient qu'Abraham était rendu au fait de sa foi, une foi très forte, et qu'il avait attaqué des rois, alors qu'il était simplement quelques centaines de personnes, et il y avait eu la victoire. Dieu lui avait donné la capacité de vaincre ces ennemis-là, mais ça venait de Dieu. Alors, pourquoi le Seigneur met ici la notion de Melchisédek? Parce que pour les Juifs, pouvoir démontrer que Jésus-Christ était souverain sacrificateur, il fallait que tu reviennes dans les Écritures. C'est une belle leçon pour nous. Si ça ne vient pas des Écritures, c'est pas fort. Alors, les Juifs se devaient de connaître par quelle autorité Jésus-Christ était souverain sacrificateur, puisqu'il n'était pas de la tribu de Lévi et qu'il n'était pas descendant d'Aaron. Psaume 110, verset 4. On va aller lire le fameux passage. Et là, il leur dit aux Juifs, Jésus a l'autorité de devenir souverain sacrificateur, puisque c'est Dieu le Père lui-même qui lui a donné cette autorité-là. Et dans le psaume 110, verset 4, on lit, « L'Éternel l'a juré. » Mais ce n'était pas des petits mots. « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. » Autrement dit, il ne changera jamais d'idée. Et là, il parle à son fils, il dit, « Tu es, en parlant à Jésus, sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Alors, c'était un décret et une déclaration divine par Dieu le Père que Jésus avait reçu l'office de souverain sacrificateur. Le verset 1 fait référence au personnage de Melchisédek. Nous pouvons en apprendre un peu plus sur lui dans le livre de la Genèse. Alors, si on veut savoir comment ce personnage-là vient nous développer l'idée, vient nous faire comprendre quelque chose sur Jésus, il faut retourner dans le livre de la Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20, qui nous dit « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui. » Alors, c'était après sa victoire sur les rois. « Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. » Et là, dans le verset 18, le fameux personnage est introduit. « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. » Et ça nous dit que ce roi-là, il était souverain, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Dans l'Ancien Testament, un souverain sacrificateur ne pouvait pas être roi et sacrificateur. Pourquoi le personnage de Melchisédek est introduit? Parce qu'il voulait nous introduire une notion nouvelle que Jésus était à la fois un roi et un sacrificateur, les deux. Donc, il commençait déjà dès la Genèse, ceux qui avaient réfléchi, qui avaient médité pourquoi le Seigneur introduisait cette notion-là dans Genèse, avaient déjà pour but de démontrer quelque chose sur Jésus-Christ, qu'il serait à la fois un roi et un sacrificateur. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament ne pouvaient pas être les deux. Ou tu étais roi, ou tu étais sacrificateur, mais tu ne pouvais pas être les deux en même temps. Mais si Dieu te donne, Dieu lui-même a dit à Jésus, « Tu es sacrificateur », alors il était à la fois roi et sacrificateur. Et dans le verset 19, ça dit, « Ce roi-là, il a béni Abraham. » Normalement, qui bénit l'autre? Celui qui est le supérieur bénit l'inférieur ou l'inférieur bénit le supérieur? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Qu'est-ce que les Écritures sont en train de nous montrer? C'est que Melchisédek, comme roi, puisqu'il était à la fois roi et sacrificateur, pouvait bénir le plus grand personnage de tous les Juifs. Qu'est-ce que le passage vient nous enseigner? C'est qu'Abraham était inférieur à Melchisédek. Donc, Abraham, jusqu'à un certain point, est inférieur à Jésus-Christ aussi. Et ça dit, il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Voyez-vous, ici, Melchisédek vient rappeler à Abraham que s'il avait eu une victoire militaire sur ces rois-là, même s'ils étaient numériquement inférieurs, c'est parce que Dieu lui avait donné la victoire. Et autre chose qui vient introduire une nouvelle idée, ça dit, et Abraham, à ce moment-là, il ne portait pas encore le nom d'Abraham, parce que Dieu a changé son nom un petit peu plus tard. Il dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il avait récupéré tous les biens des rois, ces rois-là avaient volé du stock à tout partout dans les villes, Sodome et bien d'autres villes. Il avait tout récupéré les biens, et là, il revient avec un paquet de biens. La dîme, ça veut dire 10%. Il a donné à Melchisédek 10% de tous les biens que les rois avaient ramassés et que lui a récupérés, et il donne 10%. Encore là, dans les Écritures, est-ce que c'est l'inférieur qui paye la dîme au supérieur ou le supérieur qui paye la dîme à l'inférieur? Nous, on paye des dîmes, normalement, comme chrétiens. Quand on paye la dîme, on reconnaît que celui à qui on la paye est supérieur à nous. Alors ici, ce qu'il est en train de démontrer aux Juifs, c'est que Abraham, qui est le père le plus respecté des Juifs, a payé la dîme à ce personnage-là. Donc, c'était comme une image que nous, plus tard, on paierait la dîme à Jésus-Christ. Et c'est ça, la personne de Melchisédek est utilisée comme un type de Jésus-Christ, et ce personnage-là présente des caractéristiques qui sont très significatives si on veut développer l'idée que ce personnage-là, en quelque sorte, ressemblait à Christ, qu'il était le type face à l'antitype. Premièrement, sa dignité est incontestable. Il est le roi de Salem, que ça dit dans le texte, et la plupart des auteurs disent que Salem, c'est l'ancien nom de la ville de Jérusalem. Avant de porter le nom de Jérusalem, Elle a porté le nom de Salem. Alors, il était le roi de Jérusalem. Il est et il a de la majesté et de l'autorité. Un roi, Abraham n'était pas un roi. Mais on pense qu'à l'époque, la plupart des nations étaient tellement enracinées dans le mal et dans l'idolâtrie que ceux qui étaient des véritables croyants avaient tendance à se réunir et à se mettre ensemble. N'est-ce pas ce qu'on fait aujourd'hui? On fait encore la même chose aujourd'hui. Alors, la plupart des auteurs pensent que Abraham connaissait le roi de Jérusalem parce que le roi de Jérusalem était un homme juste. Comme ça dit, il était roi de justice, il était roi de paix. Alors, vu qu'il connaissait, il reconnaissait sa supériorité en lui payant la dîme. Autre chose qu'on a parlé tantôt, il jouit d'un double office. Comme je l'ai dit tantôt, dans l'Ancien Testament, une personne ne pouvait pas être à la fois souverain, sacrificateur et roi. Pour le personnage de Melchisédek, il était les deux. Qu'est-ce que ça venait nous enseigner sur Jésus-Christ? Que Jésus-Christ serait... Jésus-Christ n'a trois offices, n'a pas juste deux. On les sait. Roi, sacrificateur, prophète. Alors, il y avait un double office. Il était aussi une double désignation. On dit de lui que son nom signifie roi de justice et roi de paix. Comment nous, on sait que Jésus... On dit de lui dans l'Ancien Testament qu'il était Jéhovah Tsikenou. Ceux qui ont lu Jérémie, dans Jérémie, on dit de Jésus qu'il est Jéhovah ou qu'il porte le même nom que Dieu. Puis Tsikenou, ça veut dire justice. Et si tu le traduis en français, dans la plupart de nos Bibles, ils l'ont traduit l'Éternel, notre justice. Autrement dit, la justice qu'on a, si Dieu nous dit qu'on est juste aujourd'hui, d'où ça vient ça? Ça vient que Jésus lui-même a accompli à la perfection, ce que je vous ai dit tantôt, les 10 commandements, la loi à la perfection. Il est notre justice. Ce n'est pas parce que nous, on obéit à la loi toute notre vie, c'est parce que Jésus l'a accompli à notre place comme notre représentant. Et pourquoi aujourd'hui on peut dire qu'on a la paix? Pourquoi un chrétien n'a pas peur de mourir et qui dit « moi j'ai la paix avec Dieu » Parce que les deux principaux problèmes qu'il y avait sont réglés. D'abord, il avait mené une vie de péché en pensée, en parole, en action, en omission et toutes sortes de péchés sous toutes ses formes dans une quantité quasiment innombrable. Et si on était mort sans avoir été réconcilié avec Dieu, si on était mort dans cet état-là, on s'en allait directement en enfer pour l'éternité et on aurait payé pour chacun de ces péchés-là. Et l'éternité elle-même n'aurait pas suffi pour que Dieu soit satisfait. Alors, comme chrétien, on sait que Jésus a pris notre punition à notre place. Et pourquoi on a la paix? Parce que Dieu exigeait des choses tellement importantes de notre part. L'obéissance parfaite à la loi en tout temps, en tout lieu, dans toute ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui a jamais menti? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui a jamais manqué de la vie au commencement de Dieu? C'est par milliers, probablement, peut-être même par millions. Et Dieu exigeait ça. Personne d'entre nous était capable de rencontrer ça. Jésus l'a fait à notre place. Alors, les deux aspects, là, pourquoi on a la paix aujourd'hui? Parce qu'on sait que nos péchés ont été pardonnés et ont été payés par quelqu'un qui est la personne même de Jésus-Christ et que la justice que Dieu exigeait, la parfaite obéissance au décalogue, aux 10 commandements, à la loi, a été accomplie aussi par Jésus. Pourquoi aujourd'hui on peut dire qu'on est juste? Dieu nous a déclaré juste. Si on était un véritable chrétien, on pourrait prendre votre nom et dire « Votre nom, vous êtes juste ». Pourquoi Dieu peut dire de moi, on va prendre mon exemple, pourquoi Dieu peut dire « Marcel Longchamp est juste » Est-ce parce que durant toute ma vie, j'ai mené une vie tranquille, j'ai fait des bonnes actions envers mon prochain, etc.? Non. Parce qu'il fallait que je l'ai fait à la perfection. Je n'ai jamais obéi au décalogue à la perfection durant toute ma vie en pensée, en parole, en action. Alors, si moi je ne l'ai pas, Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait fait à ma place. Le salut, c'est ça, c'est la substitution. Christ s'est substitué à nous pour prendre notre punition et il s'est substitué à nous pour accomplir ce que Dieu exigeait de notre part. C'est-tu merveilleux? Par la foi, Dieu dit, Marcel Longchamp est juste parce que tous ses péchés ont été payés dans la personne de Christ et que Jésus-Christ a accompli les exigences que Dieu exigeait de moi à ma place. Tu es merveilleux, ça? Il prend tout à ma place, il fait tout à ma place. Il prend ma punition, puis accomplit à la perfection les exigences que Dieu a à ma part. C'est-tu beau, salut, c'est pas beau? Amen. Amen, certain. Alors, son apparition, on continue dans les caractéristiques significatives de Melchisédek, son apparition et sa disparition sont soudaines. Tout à l'heure, on a vu dans le verset 3, ça disait qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. L'Esprit-Saint a voulu intentionnellement, volontairement, ne pas donner d'informations sur ni l'origine, ni la fin de ce roi-là. Et le but, on a dit tout à l'heure qu'un type, ça avait une intention divine, enseignée sur Jésus-Christ. Alors, est-ce que Jésus-Christ a une origine? Il était éternel. Est-ce qu'il va avoir une fin? Il n'aura pas de fin. Donc, il enseignait déjà, par le personnage de Melchisédek, que l'Esprit, c'est pas que ce personnage-là était un ange ou quoi que ce soit, il était un homme comme tout le monde, il est mort comme tout le monde, mais l'Esprit, le Saint-Esprit, a voulu cacher ces informations-là de manière à nous enseigner des choses sur la personne de Christ. Et autre chose importante à savoir ce personnage-là, c'est qu'il a béni Abraham de la part de Dieu. Donc, qui était sacrificateur du Très-Haut, c'est lui qui bénit Abraham, qui est le père des croyants, qui était le personnage le plus respecté des Juifs. Donc, il est en train de vouloir leur démontrer que Christ est supérieur à Abraham et de façon infinie. Et il reconnaît, dans le texte, dans Genèse 14, il reconnaît Dieu, que c'est Dieu qui avait donné la victoire à Abraham. Et Abraham se soumet volontairement à lui, à ce roi-là, en lui payant la dîme. Il lui donne 10% de tous les biens qu'avait ramassés chez les rois. Et lui-même, Abraham, n'a pas voulu s'accaparer ne serait-ce que zéro de tous ces biens-là. Il a dit que tous ceux qui sont venus avec moi prennent leur part, lui, il n'a rien pris. Il a donné, il a payé la dîme au roi Melchisédek. Maintenant, la singularité intentionnelle, l'intention d'identifier, ça nous dit en effet ce Melchisédek, et ça a l'intention de symboliser la royauté de Christ. Ça dit qu'il était roi. L'intention de symboliser le royaume de Salem. Les Écritures nous informent que cela fait référence à Jérusalem dans le psaume 76, versets 1 à 3. Qui nous dit, au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume d'Asaph, cantique. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Alors, étant le roi de Jérusalem, je ne veux pas commencer à faire les liens avec Jésus. Quand Jésus est venu, il est venu dans quelle ville? Jérusalem. Et il était venu pour devenir le roi. Et eux, ils ont voulu un roi qui était un militaire, un conquérant. Lui, il venait pour s'établir comme un roi sur leur conscience, sur leur âme. Ils n'ont pas voulu ça. Alors, ça avait vraiment l'intention de symboliser l'autorité aussi. Ça nous dit qu'il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Si vous allez dans l'hébreu, Dieu Très-Haut, c'est El Elyon. Tu ne peux pas parler de Dieu dans une façon pour l'élever plus que ça. Ça le dit Dieu Très-Haut. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. La suprématie, le fait de contrôler absolument tout l'univers, sa souveraineté. Et ça avait aussi l'intention de symboliser la miséricorde. La souveraineté, ça nous le dit, maître du ciel et de la terre. Alors, il bénit au nom du Dieu Très-Haut, El Elyon, et il lui dit, si tu as eu la victoire, c'est à cause du Dieu Très-Haut, El Elyon. Et ça avait l'intention aussi de symboliser la miséricorde. Qu'est-ce que le texte nous apprend? C'est Melchisédek qui est allé au-devant d'Abraham. Comme Dieu vient au-devant de nous dans le salut. Voyez-vous, la miséricorde, c'est le supérieur qui va voir l'inférieur. Aussi, l'intention de symboliser la bénédiction physique, parce que ça dit qu'il a apporté du pain et du vin. Quand on reprend le repas du Seigneur, c'est quoi qu'on utilise? Du pain et du vin. Le pain représente la nourriture. Quand on prend le repas du Seigneur, on est en train de dire, je prends la personne de Christ et son œuvre et je l'assimile à tout mon être. C'est le pain. Et le vin, c'est vraiment le symbole de la joie. On dit souvent, même dans les Écritures, ça le dit, le vin réjouit le cœur de l'homme. Puis si on n'en prend pas trop, c'est vrai. Si on en prend trop, ça devient moins vrai. Mais si on en prend juste un petit peu, c'est vrai que ça réjouit le cœur de l'homme. Alors, qu'est-ce que l'image voulait nous enseigner? C'est que le roi Melchisédek est venu au-devant d'Abraham qui venait d'arriver de la victoire avec les rois. Et qu'est-ce qu'il a apporté? Une bénédiction physique, du pain et du vin. Mais on sait que ça peut avoir aussi une signification spirituelle, comme dans le repas du Seigneur, où le pain représente le corps du Seigneur et le vin représente le sang du Seigneur. Alors déjà, on voit un petit peu ce qui s'en va avec tout ça. Et l'intention aussi de symboliser non seulement la bénédiction physique, qui a amené du pain et du vin aux militaires qui revenaient de la victoire, mais aussi une bénédiction spirituelle parce qu'il dit « Il bénit Abraham ». Donc le roi Melchisédek, qui était à la fois sacrificateur du Très-Haut et qu'il était aussi roi, a béni Abraham. Pour les Juifs, la personne d'Abraham, tu ne pouvais pas avoir plus grand que ça. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, et il leur disait « Repentez-vous », il disait « Oh, nous, on est des fils d'Abraham ». Donc, il prenait pour acquis qu'à cause qu'il était de la descendance physique d'Abraham, qu'ils étaient automatiquement sauvés pour ça. Jean-Baptiste, il dit « Ça ne marche pas de même. Il faut que vous vous repentiez de vos péchés. » Il dit « Dieu peut faire de ces pierres des enfants d'Abraham. » Ils se pensaient les enfants d'Abraham, mais ils n'étaient pas de la postérité d'Abraham, parce qu'on a vu dans la dernière leçon que la postérité d'Abraham, on a vu dans Galates, c'est Christ. Donc, toutes les bénédictions que Dieu faisait à Abraham, il les faisait à la postérité qui est Christ et ceux qui sont en lui. La Bible nous dit que nous sommes en lui. Et l'intention de symboliser aussi l'intervention divine dans la vie des adorateurs, parce que notre ami, il nous dit, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que Dieu intervient dans la vie de ses adorateurs. Dieu intervient dans nos vies, comme il est intervenu, Melchisédek était intervenu dans la vie d'Abraham. Et l'intention aussi de symboliser la soumission d'Abraham à ce grand personnage qui nous dit « Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Alors, on peut voir clairement des correspondances avec le roi sacrificateur Christ. Donc, on pourrait reprendre chacun des points qu'on a nommés. Christ avait l'autorité, Christ est souverain, il maîtrise la terre, il contrôle tout ce qu'il y a sur la terre. Il est miséricordieux, c'est lui qui vient au-devant de nous. Il nous amène à la fois des bénédictions physiques et des bénédictions spirituelles. Et il intervient dans nos vies. Et comme Abraham s'est soumis à Melchisédek, nous devons nous soumettre à Christ. Le deuxième verset, verset 2, l'autorité de Melchisédek, c'est une autorité qui est reconnue par Abraham lui-même. Hébreux 7, 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. La dîme est toujours payée à un supérieur. Abraham était très puissant car il venait d'obtenir la victoire sur les rois qui avaient vaincu d'autres rois. À l'époque d'Abraham, les hommes vivaient dans une grossière idolâtrie et une grossière immoralité. À l'époque, il y avait les Sodomites et il y avait les Amoréens. Ceux qui adoraient le vrai Dieu se devaient d'avoir de la communion pour s'encourager. Il est fort probable qu'Abraham connaissait bien le roi de Jérusalem, un homme de paix, juste et pieux. Le don de la dîme était une reconnaissance par Abraham que la victoire lui avait été donnée par Dieu. En offrant la dîme à son roi, il donnait cela à Dieu lui-même à travers son serviteur Melchisédek, qui était roi de Salem. Rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël se devait d'offrir la dîme au sacrificateur. Nombre 18, verset 24. Et Dieu donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait institué cela, la dîme, donc donner 10% de ton revenu pour entretenir les sacrificateurs qui faisaient le travail à temps plein. Donc, ils ne pouvaient pas être des cultivateurs ou des éleveurs de bétail. Ils se devaient de demeurer dans le ministère et la dîme servait à les entretenir. Ça avait été institué par Dieu lui-même. Alors aussi, ça nous dit aussi que cette autorité-là est reconnue par Abraham, celle de Melchisédek, mais elle est aussi très expressive à cause de la signification des noms. Et là, ici, les Écritures nous donnent la signification, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Jésus-Christ est le roi de justice. C'est une justice intrinsèque. Il possède la justice parfaite comme attribut de sa personne. Mais aussi, c'est la justice qu'il a accomplie à la place de ses élus. On a parlé tout à l'heure de la justice, celle de la punition de la loi, il l'a pris à notre place, celle des préceptes de la loi que Dieu exigeait, qu'il l'a fait à notre place. Et tout à l'heure, je vous disais Jérémie 23, verset 6, pour parler que Jésus était Jéhovah Tsikenu. Quand vous lisez dans le texte, ça dit « En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera. » Et ici, dans le contexte, c'est clair, on parle de la personne de Jésus-Christ. Et on dit qu'il va s'appeler Jéhovah Tsikenu, puis dans notre version, ils nous l'ont traduit « L'Éternel, notre justice ». Comment ça se fait que Dieu peut nous déclarer juste? À cause de Jéhovah Tsikenu. Jésus est ce roi de justice. Il a accompli la justice pour nous, à notre part, de deux façons. Il a pris notre punition à notre place et il a accompli les préceptes que Dieu exigeait à notre place, encore une fois. Et c'est pour ça que Dieu peut dire des chrétiens qu'on est juste. Pas parce qu'on a mené des vies justes plus que les autres. Normalement, parce qu'on est chrétien, on devrait cesser de pécher, ou du moins pécher de moins en moins. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, je vais vous le dire souvent ce verset-là, parce qu'il est tellement... C'est un verset qui résume l'Évangile en un seul verset. 2 Corinthiens 5, 21, ça nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché... » Qui ça qui n'a pas connu le péché? « Tous les hommes, sans exception, ont tous connu le péché. Une exception, Jésus-Christ. » Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été conçu de la même manière que les autres hommes. Nous, l'union d'un homme et d'une femme, Jésus, de l'union de l'ovule de Marie avec le Saint-Esprit, on nous dit que, donc, en n'ayant pas été conçu de la même manière que les autres hommes, par le fait même, il n'héritait pas de la nature pécheresse que tous les hommes héritent. Donc, quand il est venu au monde, lui, il n'avait aucune faute. Et pour qu'il puisse payer nos péchés, il fallait qu'il soit sans faute, parce qu'il prenait la faute des autres. Ça nous dit dans le verset 2 Corinthiens 5, 21. « Celui qui n'a point connu le péché, à qui fait référence? À Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous. » Qui ça? Il? Le Père. Le Père l'a fait devenir péché pour nous. Il a pris nos péchés, il les a placés en lui, et il a jugé nos péchés sur sa personne, alors qu'il était parfaitement et infiniment innocent. Et ça dit, afin, ça veut toujours dire dans le but de, dans le but que nous devenions en lui Justice de Dieu. Quel beau verset. Prenez le temps de l'analyser, prenez le temps de l'étudier. Il est tellement profond ce verset-là. Ça nous dit, celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché. Le Père l'a fait devenir péché. Pour nous, les chrétiens. Et le but, c'est afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Les fameux, ce que je vous disais tout à l'heure. Il a pris notre punition, il a accompli. Alors, les deux choses sont dans le même verset. Si on prend ce verset-là, on l'apprend par cœur, puis on le médite, tout l'Évangile est là. Tout l'Évangile est dans 2 Corinthiens 5, 21, si vous le lisez attentivement. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait au point de vue justice? Aussi, il a enseigné la justice par le don du Saint-Esprit. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, ça nous dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Après qu'on est devenu des chrétiens, où on va chercher comment se comporter dans la vie? La Bible, c'est elle qui nous donne, qui nous instruit dans la justice. Ça nous le dit. « Toute Écriture est inspirée de Dieu. » Littéralement, ça veut dire « soufflée de Dieu ». Et utile, ça nous dit pourquoi est utile. Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Comment, moi, je peux savoir si quelque chose est bien ou si quelque chose est mal? The book, comme ils disent là en anglais. Alors, Christ est roi de paix. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Ici, c'était une prophétie que Dieu faisait, qui parlait de la venue future du Messie, de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On parle de Christ dans le contexte, c'est sûr et certain. Puis là, ça nous dit des choses importantes sur lui. On l'appellera admirable, avec un A majuscule. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Ceux qui viennent dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, je veux ça lui montrer ce verset-là. Il dit, on l'appellera, et on parle de Jésus-Christ, et on dit qu'on l'appellera Dieu puissant. Et on lui dit un autre terme, on l'appellera Père éternel, et le dernier mot qui est utilisé, on l'appellera Prince de paix. Voyez-vous le lien entre Melchisédek, roi de paix, et Jésus-Christ, roi de paix. Et dans le verset, dans le psaume 85, verset 10, il y a deux choses qui nous sont enseignées. C'est que la justice et la paix se sont embrassées. Regardez bien. Ça dit, la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que, en Jésus-Christ, nos péchés ont été pardonnés à cause que lui a subi notre châtiment à notre place, la justice. Et à cause que Jésus a accepté de subir ce châtiment-là et de mettre sur notre compte sa propre justice, nous, on devient en paix. Pourquoi un chrétien peut partir et n'a jamais peur de mourir? Parce qu'il a la paix. Il sait que la question de ses péchés est réglée. Troisième point, la continuité de Melchisédek. C'est une continuité qui est intransmissible. Hébreux 7. Pourquoi ici le Seigneur vient parler que ce personnage-là, Melchisédek, avait, il dit qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie. C'était un véritable personnage, c'est sûr qu'il avait une mère, c'est sûr qu'il avait un père, c'est sûr qu'il avait une généalogie, mais l'Esprit-Saint, c'est, à l'époque, les rois d'Orient avaient tous leurs lettres de créance, d'où ils venaient. Mais l'Esprit-Saint a permis que pour ce personnage-là, on ne sache pas d'où il vient, mais on ne sache pas où il va. Pour enseigner sur la personne de Jésus-Christ. Il dit qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est pas qu'il n'a pas eu de commencement. Mais l'Esprit n'a pas voulu dire où il est né, pourquoi, et qui est rendu semblable. Il dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. À cause de ça, il veut faire la référence avec la personne de Jésus-Christ qui, après qu'il ait été mort, ressuscité, monte au ciel, assis à la droite de Dieu, qui exerce son ministère de sacrificateur actuellement au ciel, et il le fait de façon permanente. Comme ça dit dans le texte, verset 3, ça dit « Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité ». Et l'idée que l'auteur cherche à démontrer aux Juifs, c'est que maintenant Jésus-Christ au ciel et qu'il exerce le ministère de sacrificateur de façon perpétuelle, constante, permanente. Tandis qu'avant, c'était un an qui était continuellement recommencé et les sacrificateurs se devaient de changer continuellement parce qu'ils étaient mortels. Jésus n'étant pas mortel, son ministère de sacrificature s'exerce de façon permanente en perpétuité. Et c'est pour ça qu'il est en train de leur démontrer, ne retournez pas dans le judaïsme, vous faites une erreur monumentale. Alors, les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, se devaient de rencontrer plusieurs critères. Ils se devaient d'être la tribu de Lévi. Jésus était de la tribu de Judas. Ils se devaient d'être descendants d'Aaron et pouvoir prouver sa généalogie. Mais on a vu que l'autorité pour Jésus de devenir souverain sacrificateur lui avait été donnée par Dieu le Père lui-même. Et on se souvient aussi qu'à l'époque, les souverains sacrificateurs se devaient d'exercer leur ministère entre 30 ans et 50 ans. On lit par exemple dans Nombre 4, versets 1 à 3, « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Compte les fils de Kehat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon leur maison de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. » Et vous, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il pouvait commencer son ministère de souverain sacrificateur quand il avait 30 ans, puis quand il avait 50, il fallait qu'il arrête. Mais éventuellement, il mourrait, puis il fallait qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre. C'était continuellement, depuis 1500 ans, ça s'était fait comme ça, jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais quand Jésus est venu, c'était lui le souverain sacrificateur dont toutes ces choses-là symbolisaient dans l'Ancien Testament. Maintenant qu'il était arrivé, on ne change pas le symbole pour la chose réelle. Alors, le Saint-Esprit avait intentionnellement caché la généalogie de Melchisédek. Elle n'a pas été enregistrée, ni conservée, ni écrite. C'était contraire aux coutumes des rois de l'Orient. Le Saint-Esprit voulait ainsi faire ressortir le parallèle avec Christ. Christ, Jésus, était sans père humain, et sa mère Marie l'était seulement de son humanité et non pas de sa divinité. Alors, c'est une continuité qui est éternelle. Le texte n'enseigne pas que Melchisédek était éternel. Il était bien un homme mortel qui est mort comme tous les hommes. Il n'était pas une théophanie de Christ. Il n'était pas non plus un ange. Le texte nous enseigne seulement que le Saint-Esprit n'a voulu laisser aucune trace de sa naissance ou de sa mort. Ce silence est volontaire et à dessein. Il symbolisait l'éternité de Christ. Elle a toujours été, parce que Jésus a toujours été dans l'éternel passé, il est encore aujourd'hui même en train d'exercer sa sacrificature et il va le demeurer pour l'éternité. Donc la sacrificature de Christ, si on la compare à celle des anciens sacrificateurs de l'Ancien Testament, elle avait plusieurs caractéristiques. Parfaite, complète, absolue, immuable, indestructible, efficace et divine. Donc, il est en train de leur dire, si vous examinez comme faut la souveraine sacrificature de Christ et que si vous la comparez à celle des souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament, votre choix devrait être très, 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 très vite fait. Melchisédek est rendu semblable à Jésus-Christ pour les raisons suivantes. Il est un sacrificateur du Dieu Très-Haut, El Elyon, souverain, créateur et suprême. Il était un roi, donc il jouissait de majesté et autorité. Il était roi de justice, Jésus est roi de justice. Il était roi de paix, Melchisédek, mais c'était pour venir parler du fait que Jésus était roi de paix. Il a béni Abraham, le père des croyants, le supérieur bénit l'inférieur. Et il a reçu la dîme d'Abraham, l'inférieur, paie la dîme au supérieur. Il n'avait pas reçu Jésus, sa sacrificature, par généalogie naturelle, mais directement de Dieu. Il demeurait sacrificateur en dehors des limites d'âge de la sacrificature lévitique. Quand il est monté au ciel, lui, c'est à partir du moment qu'il est monté au ciel, il exerçait sa terre, mais quand il est monté, il continue de l'exercer, il va l'exercer aussi longtemps que le monde va durer. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Apprenons que tous les petits détails des Saintes Écritures sont riches, significatifs, intentionnels et restis de sens. Ça, c'est une chose que j'ai appris en préparant cette leçon-là, que l'auteur dont je me suis servi m'a fait prendre conscience. Il dit, la première fois que tu lis Genèse 14, puis tu vois ce personnage-là arriver dans la vie d'Abraham. Est-ce que la plupart de nous s'arrêtent et disent, qu'est-ce qu'il fait là, ce personnage-là? Pourquoi il est là? Qu'est-ce que ça cherche à enseigner sur Jésus-Christ? C'est ça que l'auteur est en train de nous dire. Quand on lit les Écritures, tous les mots de tous les versets des Écritures sont riches, sont pleins de sens, sont pleins de signification, et on se doit de s'habituer à aller chercher le sens. Parce que, voyez-vous, les Juifs, à l'époque, auraient dû être rendus des docteurs, comme on a vu dans une leçon précédente. Mais ils ne se souvenaient plus de ces choses-là, que dans le psaume 110, le Père avait donné l'autorité à son Fils de devenir souverain sacrificateur. Ils ne se souvenaient pas que Jésus était sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'il avait oublié. Alors, une des leçons que j'apprends du texte aujourd'hui, c'est de faire très attention à tous les détails que les Écritures nous donnent. C'est tellement riche, les Écritures. Plus on prend confiance de ça, plus on les aime, parce que moi, ça fait 34 ans que je les étudie, puis je les étudie encore avec un grand plaisir, et je dirais même que le plaisir croît avec l'usage. Plus on les utilise, plus on connaît les choses sur les Écritures, plus on les aime, et plus on découvre Christ tout partout dans chacune de ces pages, et plus on remarque que même les petits détails qui nous semblent insignifiants à première vue sont pleins de sens et nous enseignent plein de choses sur Jésus-Christ. La deuxième chose, leçon, c'est apprenons à méditer sur les types. Ils nous enseignent tous sur la glorieuse personne de Christ. Melchisédek nous apprend que la sacrificature de Christ est scripturaire, décrétée par Dieu le Père, souveraine, parfaite et éternelle, elle apporte la justice et la paix. J'ai un livre, après ça, d'épée à la maison, qui parle juste des types. C'est très intéressant parce que chaque fois que tu rencontres un personnage ou une chose ou un événement comme ça, tu peux aller voir de quelle façon cette chose-là parle de Christ. Et plus on étudie ça, plus quand on lit l'Ancien Testament, on cherche la personne de Christ, on la trouve et on est abondamment béni. La troisième chose, méditons sur la solidité et le côté merveilleux et glorieux de la personne et de l'œuvre de Christ. En le faisant, nous serons abondamment bénis et rassurés. Que l'Éternel soit béni, loué et adoré pour son œuvre glorieuse de salut en Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, encore une fois, on te remercie. Dans ces trois versets, on apprend déjà beaucoup de choses dans ce type qu'est Melchisédek, qui voulait nous enseigner toute une multitude de renseignements sur le Messie qui devait venir plus tard. Et on voit que dans l'Épître aux Hébreux, les nouveaux chrétiens juifs ne comprenaient pas nécessairement toutes ces choses et que l'auteur cherche à leur démontrer tout le côté riche des Écritures et qu'ils auraient dû savoir ces choses parce qu'ils étaient déjà dans les Écritures, mais qu'à cause de leur négligence, ils avaient ignoré et il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas à cause de cette ignorance des Écritures. Alors, Seigneur, donne-nous d'aimer les Saintes Écritures plus que jamais et de chercher dans chacun des détails, lorsque nous lisons plus particulièrement l'Ancien Testament, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.